RFI, grand reportage, Laurence Adou.
En Afghanistan, c'est demain, samedi, qu'aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle. 9 candidats sont en lice pour succéder à Hamid Karzai. Un scrutin incertain par l'issue des résultats, mais aussi par son déroulement. On craint des violences après une campagne marquée par des attentats et des attaques un peu partout sur le territoire. La sécurité a été le sujet le plus discuté et de loin entre les candidats dans un pays qui n'arrive pas à sortir de la guerre depuis 30 ans. Les talibans, écartés du pouvoir en 2001 par la coalition internationale, poursuivent leur guérilla contre les troupes étrangères. Mais avec le retrait de ces dernières, eh bien ce sont les Afghans. Les Afghans qui sont désormais chargés de combattre les étudiants en religion. Nicolas Roper, notre correspondant, a pu effectuer une mission avec l'armée nationale afghane dans la province de Nangarhar, dans l'est du pays, à la frontière avec le Pakistan. Un document exceptionnel que je vous propose d'écouter à la veille des élections, l'armée afghane en première ligne. Voici le grand reportage de Nicolas que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure.
En Afghanistan, nous avons des problèmes un peu partout. Dans cette zone ici, il y a beaucoup d'insécurité. Nos ennemis sont très bien installés, bien implantés, donc nous devons faire tout notre possible pour les déloger. Nous devons les combattre frontalement, sans reculer. Si ce n'est pas nous, qui va le faire? C'est notre devoir, cela fait partie de notre travail, défendre notre pays et notre patrie.
Pas de problème.
Nous avons fait exploser une bombe. Tout va bien.
Le lieutenant Ferouz, membre de la 4e brigade, répondait à nos questions quand les démineurs de l'ANA, l'armée nationale afghane, ont fait exploser, sans prévenir, une bombe artisanale repérée sur le haut d'une colline. Nous sommes dans le district de Roriani, dans la province de Nangarhar, à la frontière avec le Pakistan. Dans ces vallées aux pistes défoncées, les insurgés talibans sont invisibles, mais bien présents. Les IED, ces bombes artisanales déposées le long des routes, sont une de leurs armes préférées et le cauchemar des forces afghanes. Dissimulées sous des pierres, dans des tunnels ou dans des champs, elles empoisonnent la vie des soldats afghans. Deux engins du génie devancent le convoi d'une cinquantaine de véhicules. Avec Taroz, un jeune officier de communication qui nous accompagne, nous nous approchons. Le soldat s'exprime dans un très bon anglais après avoir travaillé comme interprète pendant 3 ans pour les forces américaines dans le sud du pays.
Je ne sais pas ce que c'était exactement. Nous devons nous avancer pour voir ce que c'était. Il faut voir si c'était juste une mine ou alors autre chose qui venait de l'ennemi.
Donc vous allez voir ?
Oui, on va aller vérifier. Il va falloir dépasser les véhicules pour passer devant. Vous voyez ? Ils ont trouvé quelque chose. Oui, là. Ils ont lancé une grenade fumigène pour signaler l'endroit où la bombe artisanale a été détruite.
Et vous pensez qu'il y a des victimes ?
Non. Non, pas de victimes. Tout le monde va bien. Pas de blessés, pas de morts. Grâce à Dieu, tout le monde va bien.
Les démineurs analysent la charge. Il s'agit d'une mine radiocommandée qui aurait pu se déclencher à l'aide d'un téléphone. Ces bombes artisanales que les insurgés utilisent contre les forces afghanes et les armées étrangères font aussi des dégâts chez les civils. Selon l'ONU, un tiers des victimes civiles du conflit ont été blessées ou tuées par ces engins explosifs. En une dizaine de kilomètres, les démineurs désamorcent pas moins de 6 engins de ce type. C'est l'un des plus gros risques, admet le sergent Ahmad Kaïs. Ce jeune soldat refuse de porter l'uniforme réglementaire, lui préférant un t-shirt.
Nos ennemis posent régulièrement des mines dans cette zone. Ils ont dû avoir l'information en amont comme quoi nous allions mener cette opération contre eux. Et ils ont eu le temps d'installer ces mines. Nous savons comment agir. Nous avons des équipes bien formées qui les trouvent, les neutralisent et les font exploser. Mais on sait que l'ennemi fera tout son possible pour nous atteindre. Notre boulot, c'est de les empêcher et de les mettre en échec.
Est-ce que vous êtes capable de retrouver les gens qui ont posé cette IED, cette bombe artisanale ?
Bien sûr, on va tout faire pour les poursuivre jusqu'à les retrouver. Ce sont eux qui détruisent notre pays et tuent la population. On va les punir. S'ils se rendent, on les remettra à la justice. Sinon, on va s'en occuper.
Après plus d'une demi-heure d'arrêt, le convoi peut repartir au pas. Les hommes se déploient dans la vallée. Certains montent sur les crêtes, d'autres s'aventurent entre les maisons, mais jamais trop loin. En face de nous, les montagnes de Tora Bora, l'endroit où Oussama Ben Laden aurait trouvé refuge au moment de la chute des talibans en 2001. Les forces afghanes n'ont jamais réussi à contrôler entièrement ces régions où les talibans se mêlent aux villageois. Nous croisons des voitures de civils que les soldats afghans fouillent méticuleusement. Nasrullah, en voiture avec son jeune fils, s'arrête à la demande pressante des soldats. Ces derniers le fouillent, lui font ouvrir son coffre. Originaire du village de Mamla, situé à plusieurs kilomètres d'ici, il veut rentrer chez lui et n'a pas d'autre choix que d'emprunter cette piste à travers la montagne. Sincère ou non, il se félicite de la présence de l'armée afghane.
C'est vrai que ça nous fait perdre un peu de temps, mais c'est normal. Je pense que c'est une bonne chose que l'armée vienne jusqu'ici. Ils font du bon travail pour servir notre pays. Nous, on en a marre des talibans, on n'en peut plus, ils nous causent trop de problèmes. Nous sommes contents que l'armée les chasse.
Vérification faite, Nasrullah peut repartir. Quelques instants plus tard, apparaît un peu plus loin un homme à pied le long de la rivière. C'est un vieux monsieur qui porte l'habit traditionnel afghan. Les soldats pointent leurs armes sur lui et lui demandent de se rapprocher. Ils craignent qu'il ne soit armé ou muni d'une ceinture d'explosifs.
Lève les mains. D'où est-ce que tu viens ?
Gandamak.
Tu viens de Gandamak ? Qu'est-ce que tu as fait là-bas ?
Ma maison est à Peshawar, au Pakistan. Je dois aller récupérer ma carte d'identité à l'administration, elle est là-bas.
Pourquoi est-ce que tu veux aller là-bas dans ces conditions ?
Je dois aller au bureau de l'administration pour aller chercher mes documents officiels. Je vous l'ai dit, j'ai les photocopies, je peux vous les montrer. Regardez.
Tais-toi, je t'ai dit. Attachez-lui les mains.
Ne faites pas ça, je vous suis.
Vous n'avez pas de carte d'identité, votre maison est au Pakistan.
Mais je vous l'ai dit, ce n'est pas de ma faute. Je dois aller chercher ma carte d'identité.
Cet homme n'a pas de carte d'identité. Il n'a pas à être là, c'est une zone de combat. Et il voulait aller à Gandamak. C'est un district que nous connaissons bien. Les talibans y sont très présents. En plus, il nous a avoué qu'il venait du Pakistan, donc il était suspect. Nous l'avons arrêté le temps de vérifier son identité. Il fait peut-être partie de ceux qui informent ou qui combattent avec les talibans. Nous devons vérifier si ce qu'il dit est vrai ou pas.
Cette interpellation arbitraire montre la nervosité et les rapports que peuvent avoir les militaires avec les habitants du coin. Sur les 250 militaires de cette mission, très peu sont originaires de cette région. Ils sont cependant majoritairement de l'ethnie Pashtoun, comme les habitants de cette province, mais aussi comme la plupart des talibans. À la veille d'élections cruciales, la mission de l'ANA est claire, combattre et repousser les talibans implantés dans la zone afin de permettre aux électeurs de se déplacer jusqu'aux urnes. Les talibans qui boycottent l'élection ont promis de tout faire pour perturber son bon déroulement, ce que le général de brigade Dadan Walang, commandant en chef, promet d'empêcher.
Désormais, la sécurité en Afghanistan est de la responsabilité de l'armée afghane. Et ma brigade, la 4e, a pour mission de nettoyer la région des insurgés. Nous le ferons pour que la population puisse aller voter, non seulement pour le premier tour de la présidentielle, mais aussi pour les autres élections qui seront organisées par la suite. Je sais que nous accomplirons cette tâche avec succès.
Loin des déclarations optimistes du général de brigade, le convoi poursuit sa route. La cinquantaine de véhicules traverse les villages. L'armée est accueillie parfois avec méfiance, parfois avec une joie trop démonstrative pour être réelle. Le colonel Shirin Aga, porte-parole de l'ANA qui accompagne la mission, nous présente à une de ses connaissances, Nour Khan, un père de famille à la barbe claire. En confiance, le villageois n'hésite pas à décrire une situation assez sombre.
Bien sûr, nous avons peur de vivre ici avec nos familles. Après la prière du soir, c'est impossible pour nous de sortir, de quitter nos maisons. C'est bien trop dangereux car les talibans nous viseraient ou nous tueraient. Nos vies sont en danger avec les talibans. Ils contrôlent les routes la nuit et même la journée, ils sont autour. L'armée vient pour les repousser, ils s'en vont, mais reviennent ensuite rôder.
Les militaires repartent, les habitants ont confirmé ce qu'ils savaient déjà. Ici, les talibans ont toute liberté de mouvement. La preuve, quelques kilomètres plus loin, au sommet d'une montagne, après des lacets serrés, des tirs résonnent. Les militaires afghans sont victimes d'une embuscade. Ils répliquent à l'arme lourde. Mortiers, canons, mitrailleuses. Le commandant donne ses ordres, par Toki Walki, à ses hommes en première ligne. La précision n'est pas forcément de mise. L'ennemi a, semble-t-il, disparu dans les montagnes.
Trop distant pour intervenir, les artilleurs se contentent de tirs de loin et à vue pendant plus de 2 heures. Malgré du matériel de qualité et une bonne organisation, impossible de savoir s'ils ont abattu des insurgés. Le colonel Shirinaga, porte-parole de l'ANA, ne s'embarrasse pas des détails.
C'est une région où sont implantés de nombreux talibans. Et quand nous sommes arrivés, ils nous ont lâchement tiré dessus. Heureusement, ces tirs n'ont pas fait de blessés dans nos rangs, mais nous savons que c'est toujours possible d'avoir des victimes. Cela fait partie de notre travail. Nous avons répliqué comme il se devait, car c'était une opération bien préparée, menée avec le professionnalisme de l'armée afghane. Nous ne connaissons pas encore le bilan précis du nombre d'ennemis tués, mais je suis sûr qu'ils ont subi de lourdes pertes.
Pendant 2 jours, l'armée afghane aura subi pas moins de 3 embuscades de talibans. Des tirs approximatifs de la part des insurgés, mais leur objectif n'était pas de s'opposer frontalement aux soldats de l'ANA, bien trop nombreux. L'idée est davantage de montrer aux forces gouvernementales qu'ils sont présents. L'armée afghane est en charge de la sécurité dans la totalité du pays depuis l'été dernier. Les soldats étrangers ont commencé leur retrait, mais pour cette opération, l'aide américaine n'était pas inutile. Au moins une fois, les forces spéciales américaines ainsi que l'aviation américaine sont intervenues, alors que les Afghans n'arrivaient pas à faire cesser les tirs dans leur direction. La surveillance par hélicoptère est aussi assurée par la coalition internationale. La veille, une réunion a eu lieu entre le commandement afghan et les forces spéciales américaines encore présentes dans la région. Ce sont les Afghans qui ont insisté pour être accompagnés par les forces américaines.
Ok, ça m'a l'air d'être bien. Je pense que le plan que vous avez, les gars, c'est ce qu'il faut faire. Donc, avec nous et avec les forces spéciales afghanes, on sera prêt à vous aider.
Donc, ça veut dire que vous participez à cette mission avec nous ?
Voici comment je vois les choses, d'après ce que vous m'avez dit. On sera en contact depuis la base, et s'il se passe quelque chose, on viendra en soutien par les airs. Donc, en premier lieu, vous aurez le soutien aérien, et puis moi et mes hommes, on sera derrière vous, prêts à intervenir. Mais vous serez devant.
La scène à laquelle peu de journalistes ont pu assister montre à quel point l'armée afghane est dépendante des forces de l'OTAN. Il reste pendant moins de 50 000 soldats étrangers dans le pays. La plupart seront partis avant la fin de l'année. Le général de brigade Dadan Walang, commandant en chef, tente de minimiser l'aide de l'OTAN sur le terrain.
Les forces spéciales américaines sont encore présentes sur notre base. Donc nous discutons avec eux et avec les forces spéciales afghanes. Mais nous sommes à la base des opérations. C'est nous qui les pensons, c'est nous qui les menons. Quand nous avons besoin de soutien aérien, nous leur demandons. Car nous n'avons pas d'avion de combat, par exemple.
Retour à la base où, quand il ne pleut pas, les soldats passent leur temps en jouant au criquet ou au volley. Parmi eux, beaucoup se sont engagés récemment. Le renouvellement des militaires est un vrai problème pour l'ANA. Un tiers des effectifs est tué ou quitte l'armée chaque année, ce qui oblige l'OTAN à former sans cesse les nouvelles recrues.
Je m'appelle Morsaline, j'ai 21 ans. J'ai rejoint l'armée il y a environ 1 an. Je viens d'une famille pauvre. C'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre l'armée. Ça me permet d'aider la famille financièrement. Si je n'avais pas fait ce choix, je n'aurais pas pu avoir un travail régulier. J'aurais été employé de manière journalière comme fermier ou bien porteur. Et j'aurais juste gagné de quoi survivre. Il y a aussi une autre raison. C'est que je pense que c'est important de soutenir son pays et l'armée afghane. C'est une bonne chose.
Le salaire n'est pourtant pas mirobolant, moins de 180 euros par mois, mais c'est largement mieux que la moyenne dans le pays. Les risques existent, mais les militaires disent que cela fait partie du métier. Certains se plaignent de leurs conditions de vie, comme le sergent Salim Mohamed, en charge de la protection du camp. Il vit avec 6 autres camarades dans une cabane en bois.
Suivez-moi, là, c'est là où on habite. Quand il y a de fortes pluies, comme en ce moment, l'eau coule depuis le toit. Mais comme c'est posé à même la terre, l'eau s'infiltre aussi depuis le sol. C'est vraiment des mauvaises conditions. Pas d'eau potable, pas d'électricité pour recharger nos téléphones. C'est très mal fait.
Il nous affirme qu'il ne possède qu'une seule arme pour 7. Si jamais une attaque a lieu contre leur base, il leur faudra appeler des renforts qui leur apporteront des armes et des munitions. Ce que ne dément pas le général. Quand on lui demande quelles améliorations pourraient être apportées à l'armée pour la rendre plus efficace,
La liste de doléances est longue.
Il nous manque des hélicoptères qui nous seraient utiles pour des opérations aériennes. Nous en avons un certain nombre, 35 exactement. Mais ce n'est pas assez, il nous en faut plus. Il nous faudrait aussi du matériel d'observation pour pouvoir repérer les insurgés qui se cachent. Nous avons besoin de plus de véhicules blindés, comme ceux qu'utilisent les armées étrangères présentes en Afghanistan. Il faut poursuivre la formation de nos troupes. C'est une guerre contre un ennemi difficile que l'OTAN n'a pas réussi à défaire en 12 ans. Mais si on équipe correctement l'armée afghane, je suis persuadé qu'elle aura les moyens de prendre le dessus sur nos ennemis.
L'OTAN a prévu de financer à hauteur de 4 milliards de dollars par an l'armée afghane, un montant qui est suspendu pour l'instant à l'accord stratégique entre Kaboul et Washington. Après des mois de négociations, le président afghan Hamid Karzai a finalement décidé que ce serait au prochain président de trancher s'il doit ou non signer ce texte. Un texte présenté comme indispensable à la stabilité de l'Afghanistan. À la veille des élections, l'armée afghane en première ligne, un grand reportage de Nicolas Roper dans la province de Nangarhar, réalisation Marc Minatel.
Nicolas Roper, bonjour.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Vous revenez donc d'Afghanistan, vous avez réalisé ce reportage inédit. Dans quelles conditions s'est déroulé votre enregistrement ?
J'ai pu être accueilli avec un autre journaliste français et un interprète au sein de la 4e brigade du 201e corps de l'ANA, l'armée nationale afghane. Nous avons passé 4 jours avec eux dans la province instable du Nangarhar, à la frontière du Pakistan. Les talibans sont présents, vous avez pu l'entendre dans ce reportage, mais ils n'ont pas la force de frappe de l'ANA soutenue par les forces internationales. Nous avons mené avec eux une opération de 2 jours qui n'a pas été de tout repos. Entre les bombes artisanales et les embuscades, les talibans ont montré qu'ils étaient bien présents, sans pour autant frapper au cœur les militaires afghans. Les insurgés qui naviguent entre les montagnes afghanes et pakistanaises sont chez eux, dans ces zones. Ils se mêlent à la population et arrivent à être quasiment invisibles. Cela rend la tâche très difficile pour l'armée afghane. Et on a eu l'impression que les militaires affrontaient des fantômes insaisissables.
Cette question, Nicolas, est-ce que l'armée afghane pourra faire ce qu'une coalition internationale très bien équipée et bien entraînée n'a pas réussi à faire en 12 ans?
Les militaires afghans que nous avons pu observer sont plutôt bien formés, bien équipés, mais évidemment pas du niveau des soldats étrangers. En 12 ans de présence dans le pays, les armées de la coalition internationale n'ont pas réussi à déloger les insurgés. Avec le départ des forces de l'OTAN, l'armée afghane sera désormais seule face à ces militants qui mènent une véritable guérilla. Le manque de moyens aériens va rendre le travail plus difficile. Mais différence notable, les Afghans ont l'avantage d'être d'ici. Ils semblent mieux acceptés par la population qui avait un sentiment croissant de rejet contre les armées étrangères. Le jeu semble cependant inégal entre deux petits groupes de talibans qui se déplacent rapidement dans des zones qu'ils connaissent et une armée afghane lourde et lente. Lors de notre opération, ils ont construit des postes de contrôle pour la police, mais cela ne pèse pas beaucoup face à des talibans qui reviendront harceler les forces de l'ordre. La guerre aujourd'hui est une guerre de gagne-terrain. Cela semble impossible que les forces afghanes l'emportent, mais on ne voit pas non plus de grandes villes tomber. On est en quelque sorte dans un équilibre des positions. Tout dépendra de la poursuite du soutien financier de la communauté internationale auprès des forces afghanes.
Alors le premier tour de la présidentielle afghane a lieu, on l'a dit, demain. Quelle est la situation à travers le pays, Nicolas ?
Ces dernières semaines ont vu une recrudescence des attaques et des attentats. Le jour de notre départ de la base, un poste de police a été pris pour cible à Jalalabad, la capitale provinciale du Nangarhar, faisant 11 morts. C'est une attaque parmi d'autres, les attentats contre les lieux symboliques à Kaboul ont été particulièrement nombreux, obligeant plusieurs organisations internationales à quitter le pays, notamment plusieurs groupes d'observateurs électoraux. Autre cible, les journalistes. Un reporter suédois et un journaliste afghan de l'agence France Presse ont été tués en 15 jours à Kaboul. Les bureaux de la commission électorale ont été attaqués par 2 fois. Bref, la situation se dégrade. Les talibans, qui avaient promis de tout faire pour perturber le scrutin, ont tenu parole. Reste à voir si les Afghans auront le courage de les défier en allant voter.
Un dernier mot, Nicolas. Vous nous parlez depuis Dubaï et non plus de Kaboul. Pour quelle raison ?
Oui, la rédaction de RFI a jugé que les conditions de sécurité n'étaient plus réunies dans la capitale afghane. De nombreux attentats ont eu lieu sur des cibles étrangères, je vous en parlais. Je vais donc suivre ce scrutin depuis Dubaï avec mes contacts sur place.
Ce sera le mot de la fin, Nicolas Roper. Merci beaucoup. Bonne journée.